Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La colère des clients de la SNCF qui ne pourront pas prendre leur train demain pour partir en vacances de Noël. On va aller à Nice voir comment on s'organise pour partir quand même. Et puis on sera en direct avec le patron de Flixbus. De nouvelles règles anti-violence dans le football. Si un joueur ou un arbitre est blessé par un supporter, le match sera définitivement arrêté. D'autres décisions ont été prises, vous allez voir. Un score d'audience correct, mais vraiment pas plus pour Emmanuel Macron hier soir sur TF1. 3 800 000 téléspectateurs, on va décrypter ce chiffre avec Jacques Serret, qui est à Bruxelles, aux côtés du président de la République. La garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard a été prolongée. Pourquoi ? Qu'espèrent les enquêteurs ? On verra ça avec Benjamin Péter sur place. Et puis la tendance météo, évidemment. Avec vous, Anissa Dadi, toujours de la grisaille au nord.
Oui, les jours se suivent et se ressemblent, Romain. Les brouillards de ce matin se sont dissipés quasiment partout. Le soleil domine sur la moitié sud. Les nuages dominent toujours là au nord, avec un peu plus d'éclaircies quand même aujourd'hui pour la Bretagne et l'Alsace. Il va faire un petit peu plus frais cet après-midi.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. Une grève qui irrite au plus haut point nombre de clients de la SNCF. Elle a débuté ce matin en Île-de-France et demain, c'est le réseau TGV Sud-Est qui est touché pour le début des vacances de Noël. Les grévistes réclament des augmentations de salaire et une prime Covid. On part tout de suite à la gare de Nice, retrouver avec nous en direct Frédéric Michel. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
C'est donc la grande débrouille. Comment s'organisent les Niçois qui veulent partir et qui n'ont pas de train ?
Bah écoutez, pour être sûr de pouvoir fêter Noël en famille, beaucoup d'usagers de la SNCF ont, quand ils le pouvaient, avancé leur voyage, tout simplement. C'est le cas d'Anna.
Bah, vraiment que je prenne le train, soit aujourd'hui, soit demain, mais aujourd'hui au moins je suis sûre.
Pour Blandine, cette grève ne change rien à son programme.
Non, c'était prévu de partir aujourd'hui et bah, de toute façon, moi je compatis complètement à la grève des cheminots. Je comprends la situation actuelle qui est déplorable dans les services publics.
Mais en majorité, les personnes que j'ai rencontrées ce matin en gare de Nice sont agacées par cette grève, comme Aline qui doit prendre un avion à Paris demain matin.
J'appréhendais, j'avoue, mais tout va coller, en espérant que je vais arriver à Paris ce soir bien comme il faut, quoi. Qu'on ne soit pas arrêté en route. Moi, je trouve que ça devient vraiment pénible. On ne comprend pas. Moi, je pense qu'ils ont quand même obtenu certains avantages ces derniers temps, mais je crois que ça va être très dur. Ils n'ont pas l'air de vouloir plier, là.
Dominique aussi ne comprend pas pourquoi les Français sont à chaque fois, dit-elle, pris en otage.
La SNCF, c'est quand même pas les plus malheureux au niveau emploi, donc je comprends pas. Ça fait des années que la SNCF met toujours les petites gens en difficulté, ceux qui vont travailler par les transports. Parce qu'on pense aux vacances, mais il y a les gens, tout le monde n'est pas en vacances à Noël.
Alors pour l'instant, pas d'embouteillage en gare de Nice, mais avec le début de la grève demain, l'ambiance devrait changer sur les quais.
Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de la gare de Nice. On est avec Yvan Lefranc-Morin. Bonjour Yvan Lefranc-Morin, vous êtes directeur général de Flixbus. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Frédéric Michel, il faisait allusion, certains, pour éviter la grève, partent dès aujourd'hui en vacances. Vous avez senti, vous, une poussée des réservations sur les départs aujourd'hui ?
Alors sur les départs aujourd'hui, pas vraiment. Nous, vraiment, l'impact qu'on a pu voir hier et notamment à partir de 14h, qui est l'heure à laquelle la grève a été confirmée, c'est vraiment une accélération très très forte des réservations et des visites sur notre site pour tous les départs entre demain et évidemment samedi, dimanche, le premier week-end des vacances.
Et évidemment ce week-end. Alors justement, comment vous répondez à cette situation ? Vous mettez plus de bus en circulation ?
Alors non, malheureusement, on n'a pas cette flexibilité. On est trop proche des départs. À 48 heures du départ, c'est très compliqué pour nous de changer notre plan de transport initial. Donc on n'a malheureusement pas une réponse très forte à pouvoir apporter en si peu de temps. Donc on met à disposition évidemment toutes les places qui sont encore disponibles dans les cars et il en reste encore. Donc il y a quand même possibilité pour ceux malheureusement qui vont être impactés par la grève de pouvoir déplacer avec des bus Flixbus notamment. Mais malheureusement on n'a pas pu réagir. On est en train de regarder pour les week-ends suivants si on peut rajouter de l'offre en revanche.
Oui, ça c'est une information qui est très intéressante. Il reste encore des places de bus, notamment chez vous et peut-être chez la concurrence. Est-ce que vous en profitez, alors ça c'est une question qui va intéresser tout le monde, pour augmenter vos tarifs sur Paris, Lyon, Marseille ?
Non, alors on n'a vraiment pas touché à notre grille de prix et d'ailleurs on ne l'a jamais fait au cours des dernières grèves de la SNCF. C'est exactement la même grille de prix, ce qui veut dire que le prix plus cher que vous pourrez payer ce week-end est exactement le même que celui que vous auriez payé si vous aviez réservé ou si vous aviez regardé les prix la semaine dernière. Donc on n'a pas touché à la grille.
D'accord, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande, comme tout le monde va se battre pour avoir des places. Vous n'augmentez pas vos tarifs. Vous allez transporter combien de passagers? Vous auriez pu, hein, ce n'est pas interdit. Bon.
Non. En revanche, évidemment, si vous achetez le dernier ticket disponible dans le car, et ça c'est classique, grève ou pas grève, vous allez le payer plus cher que celui qu'il a acheté effectivement il y a un mois et qui est pris très à l'avance.
Quelques mois à l'avance, bien sûr. Vous allez transporter combien de passagers demain, samedi et dimanche? Vous avez calculé?
Alors, c'est un petit peu trop tôt pour le dire, puisqu'on n'a pas encore toutes les réservations. Il y a beaucoup de réservations qui arrivent en dernière minute, mais ça va être plusieurs dizaines de milliers de passagers transportés sur le week-end.
Merci beaucoup, Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h35.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
Espérons que les mesures décidées ce matin par le gouvernement et le monde du football vont produire leurs effets. Ce sont des mesures anti-violence dans les stades. La goutte d'eau a été l'agression de Dimitri Payet et le fiasco de cette rencontre OL-OM avec un cafouillage sur la prise de décision et sur la décision d'arrêter ou pas la rencontre. Tout d'abord, avec vous Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain.
On va voir ces mesures annoncées ce matin. Dites-nous précisément ce qui a été décidé.
Le ministère de l'Intérieur voulait que les choses aillent vite. C'est fait. Hein. Donc dès janvier 2022, la plus spectaculaire sera l'arrêt désormais systématique et définitif des matchs lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile. Plus de discussion possible. Pour un incident moins grave mais problématique, une cellule de crise devra statuer dans les 30 minutes sur la tenue du match. Elle comprendra des officiels, les arbitres, les représentants des pouvoirs publics, mais plus les présidents de clubs pour cause de conflits d'intérêts. On l'a vu à Lyon il y a un mois. Les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades dès l'été prochain. Des gobelets jetables et recyclables et puis des fontaines à eau vont progressivement les remplacer. Des dispositifs de sécurité à la charge des clubs devront être installés. Anti-projection avec des filets amovibles pour contrer les éventuels projectiles et anti-intrusion avec des élastiques qui vont empêcher les envahissements de terrain. Alors vous l'aurez compris, la philosophie d'ensemble, c'est de cibler désormais les comportements individuels. Arrêtez de punir 50 000 personnes pour une poignée d'imbéciles. Il y a actuellement 104 personnes interdites de stade en France. C'est pas beaucoup, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus très bientôt si les incidents se poursuivent, parce qu'on va notamment vers une billetterie 100% nominative.
Quand il y a une suspension de match, Jean-François, le patron du club, enfin les patrons des deux clubs qui s'affrontent, n'auront pas leur mot à dire.
Non, terminé.
Oui, c'est parce qu'il y avait eu Jean-Michel Aulas.
Il y avait eu ingérence de Jean-Michel Aulas, notamment Lyon-Marseille, qui avait notamment envoyé son speaker pour annoncer aux spectateurs que le match allait reprendre, ce qui n'a pas été le cas.
On est en direct avec Sylvain Kastendeutsch. Merci Jean-François. Ancien de Saint-Etienne et de Metz. Bonjour Sylvain Kastendeutsch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous, co-président de l'Union nationale des footballs professionnels. Vous avez entendu Jean-François Pérez détailler ces mesures. Est-ce qu'elles vont calmer les ardeurs des supporters violents? Voilà ma question.
On peut déjà souligner une mobilisation inédite quand trois ministres, celui de l'Intérieur, le garde des Sceaux et le ministre des Sports, s'emparent d'un sujet. C'est plutôt qu'il va être traité à la fois sérieusement et avec toute la responsabilité nécessaire. Et puis, il y a unité aussi du monde sportif, puisque pour la première fois, à la fois le président de la Fédération, la Ligue et les différents présidents de clubs, les différents présidents des associations d'acteurs étaient présents. Donc, je pense que déjà ça, c'est à souligner. Et c'est plutôt, je dirais, positif et en tout cas porteur d'espérance par rapport aux solutions qu'il faut trouver. Vous l'avez souligné dans votre résumé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incidents depuis le début de la saison. Cette mobilisation devrait, je l'espère en tout cas, sécuriser davantage les joueurs et les arbitres, puisque c'est l'objectif principal, hein, d'éviter que des acteurs sur le terrain soient victimes de gestes aussi malveillants.
Vous êtes un ancien joueur de football professionnel, vous connaissez par cœur les stades, le monde du foot. Les mentalités ont changé chez les supporters. Comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'il y ait des incidents quasiment à chaque journée ?
Il n'y a pas des incidents à chaque journée, il y a eu quelques incidents. Je ne sais pas si c'est l'évolution de la société qui fait que, par moment, en tout cas, certains individus arrivent à extérioriser leur je ne sais pas comment on peut appeler ça, frustration, ou en tout cas leur envie de violence. C'est des cycles, en fait, et je crois que, justement, la prise en compte par les pouvoirs publics et sportifs de ces incidents-là va faire, en tout cas, on l'espère, l'UNFP pour les joueurs, va faire en sorte que ces incidents, maintenant, disparaissent et qu'on trouve les solutions. Il va falloir les expérimenter. Il y a toute une série de mesures très intéressantes et importantes qui ont été prises. C'est pas tellement d'ailleurs celle qui fera que le match sera arrêté. On espère ne jamais avoir à vivre ou à subir ce fait-là. Par contre, la sécurisation à la fois à l'entrée, dans les tribunes et puis éventuellement les protections pour protéger le carré vert qu'on doit sacraliser, je pense que c'est surtout ces mesures-là qu'il va falloir réussir, qu'il va falloir mener à bien, et je pense qu'on arrivera à nouveau à aller dans les stades sans vivre de tels moments.
Espérons. Merci beaucoup Sylvain Castendush d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, ancien de Saint-Etienne, ancien de Metz et co-président de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Il est 12h40. On va parler à présent de la lutte contre le variant Omicron et ce serrage de vis à la frontière avec le Royaume-Uni, annoncé ce matin à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Le gouvernement rétablit, à compter de samedi, l'obligation de motifs impérieux pour les voyageurs en provenance et à destination de l'Angleterre. On est avec vous Céline Géraud. Bonjour Céline.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Ça va être plus compliqué forcément de traverser la Manche. Expliquez-nous.
Concrètement, et ce sera dès vendredi minuit, hein, Romain, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni qui veulent séjourner en France devront présenter un test négatif de moins de 24 heures, vacciné ou non. Il était de 48 heures hein, jusqu'à aujourd'hui. Autre contrainte, l'obligation de respecter un isolement de 7 jours à l'arrivée, isolement qui pourra être réduit à 48 heures en cas de nouveau test négatif réalisé à l'arrivée au début de la quarantaine. Chaque voyageur devra aussi s'enregistrer avant son départ sur une application dédiée qui générera un arrêté préfectoral. Il faudra donc donner toutes les informations sur la durée et le lieu de séjour. L'isolement sera d'ailleurs contrôlé par les forces de l'ordre. Ces voyages en provenance du Royaume-Uni seront limités aux résidents français, aux binationaux qui ont de la famille en France, mais aussi aux ressortissants britanniques bénéficiaires de l'accord sur le Brexit. Les voyageurs en transit, de moins de 24 heures en zone internationale dans les aéroports, certains étudiants aussi inscrits dans les cours de français de langue étrangère, ou encore certains professionnels de santé pourront aussi bénéficier de ce motif impérieux. C'est un tour de vis brutal, hein, Romain, qui altère la machine de Noël. Mais le gouvernement veut ralentir au maximum l'arrivée de variants Omicron sur notre sol. Ce matin, on en dénombrait 240.
Merci beaucoup Céline Géraud, pour les toutes dernières informations. Il est 12h42, restez bien avec nous. Dans Europe Midi, garde à vue prolongée pour la compagne de Cédric Jubilard. Pourquoi cette décision de prolonger sa garde à vue? On verra ça avec Benjamin Péter en direct de Gaillac dans un instant. Gaillac dans le Tarn, évidemment. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h45, ce n'était pas la foule des grands jours hier soir sur TF1 pour regarder Emmanuel Macron. 3 800 000 téléspectateurs. C'est un score honorable, mais qui est plutôt en dessous de la moyenne de cette case qu'est celle du mercredi soir. Jacques Serret à Bruxelles avec le président de la République pour Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
C'est un petit score d'audience, hein, 3 800 000.
Oui, c'est relativement faible pour une interview d'un président. Alors TF1 était leader hier soir face aux autres chaînes, mais on ne peut pas dire que les Français ont répondu massivement présents pour suivre cet entretien, si l'on met ces chiffres un peu en perspective et que l'on compare. La semaine dernière, le débat Éric Zemmour-Bruno Le Maire avait attiré 2,8 millions de personnes, soit un peu moins d'un million de téléspectateurs par rapport à hier soir. C'est dire si la différence n'est vraiment pas significative, surtout si l'on regarde un peu plus en arrière. En janvier 2012, à 3 mois de la présidentielle, Nicolas Sarkozy, alors président, s'était lui aussi prêté à cet exercice. C'était diffusé sur 8 chaînes, mais sur la seule antenne de TF1, l'audience culminait à plus de 9,2 millions de téléspectateurs, soit 2,5 fois plus que les chiffres d'hier soir.
Alors, sur le fond, pas de grandes annonces, mais une certitude, Emmanuel Macron donne vraiment le sentiment qu'il est un président en campagne qui va se représenter, hein.
Oui, Emmanuel Macron ne le dit pas, mais les allusions, les sous-entendus sont suffisamment clairs, comme lorsqu'il donne cette réponse.
Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence.
D'évidence, et ce terme n'est pas employé par hasard par Emmanuel Macron, car c'est sa stratégie aujourd'hui, banaliser sa candidature, la rendre naturelle aux yeux des Français. En attendant, cela lui permet de jouer sur deux tableaux, chef d'État et candidat officieux à sa succession. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne se prive pas de lancer quelques piques à ses rivaux, Valérie Pécresse sur les fonctionnaires, Éric Zemmour sur l'immigration. Même s'il ne le dit pas, Emmanuel Macron est aujourd'hui bel et bien dans l'arène et lancé dans la bataille de 2022.
Jacques Serret à Bruxelles pour Europe 1. Il est 12h47. Généralement, pendant les vacances de Noël et du jour de l'an, beaucoup d'entreprises ferment. On appelle ça la trêve des confiseurs. Élise Dangean, Service Économie, avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour Romain.
Vous nous dites que cette année, de nombreuses entreprises ne vont pas fermer, et c'est pour la bonne cause. Elles sont débordées par la demande.
Absolument. Par exemple, Laurent Goët n'a plus le choix avec 2-3 semaines de retard sur son carnet de commandes. Le patron de la société Fingerstyle, qui fabrique à Cholet des accessoires sur mesure pour l'équipement de boutiques de luxe ou encore de dressing, va devoir faire tourner son atelier entre Noël et jour de l'an, une première en près de 17 ans d'existence.
Il y a d'une part le délai qui est un petit peu allongé au niveau de l'approvisionnement des matières premières, mais également l'engouement des particuliers. Ça, c'est lié à la crise du Covid.
L'entreprise qui cherche à recruter des vernisseurs peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et elle n'est pas la seule. C'est pour ça que la société Bigger, spécialisée dans le recrutement, va elle aussi devoir poursuivre son activité entre Noël et jour de l'an. Son directeur Charlie Gaillard a pris la décision mi-novembre.
On se rend bien compte que la saisonnalité de notre activité a complètement changé. C'est-à-dire que déjà cet été, on avait commencé à reprendre beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc, on avait commencé à anticiper que peut-être la fin de l'année serait moins calme, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit encore amplifié par rapport à, par exemple, les mois de septembre et octobre qui traditionnellement sont des mois très chargés pour nous.
Voilà, et c'est finalement l'arroseur arrosé puisque l'entreprise Bigger aurait elle aussi besoin de recruter du personnel. Elle prévoit de doubler ses effectifs l'an prochain, mais admet faire face aux mêmes difficultés que ses clients.
Merci beaucoup Élise. Élise Dangean, il est 12h48.
Europe Midi. Midi 30, 13h. Romain Desarbres.
Garde à vue prolongée pour la compagne de Cédric Jubilard. Elle est interrogée depuis hier matin 7h, soupçonnée de recel de cadavres. Benjamin Péter en direct avec nous depuis Gaillac dans le Tarn où est interrogée la jeune femme. Bonjour Benjamin.
Bonjour Romain.
Si la garde à vue a été prolongée, c'est que les gendarmes ont encore des questions à lui poser, hein?
Oui, les enquêteurs cherchent notamment à comprendre la nature de la relation entre elle et Cédric Jubilard au moment de la disparition de Delphine. Séverine a toujours expliqué qu'elle ne le connaissait que très peu comme le partenaire de poker de son fils et que ce n'est que plus tard, au printemps dernier, qu'ils se sont rapprochés, qu'ils ont démarré donc cette relation. Mais s'ils étaient déjà en couple quand Delphine a disparu, elle aurait pu participer à cacher le corps de la jeune femme. C'est en tout cas le scénario qu'envisagent de plus en plus les enquêteurs qui sont persuadés que Cédric Jubilard a tué son épouse et qu'il aurait pu bénéficier d'une aide. Sauf qu'évidemment, pour le moment, dans ce dossier, il n'y a toujours ni corps ni aveu. Du coup, les gendarmes de la SR vont également la confronter à des éléments, des écoutes, des échanges avec des proches de Cédric Jubilard. Ses propres mots également, lorsqu'en audition, ici même à la gendarmerie, en juin dernier, elle expliquait que Cédric pouvait parfois être violent. Alors ça fait bientôt 29 heures qu'elle est dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac. À l'issue de cette garde à vue, en tout cas, deux hypothèses. Soit les enquêteurs ont des éléments pour que les juges la mettent en examen, ce qui serait un tournant capital dans cette affaire, soit comme la mère et le beau-père de Cédric Avantel, qui avaient eux aussi été entendus sous le régime de la garde à vue, elle ressortira libre.
Merci beaucoup Benjamin Péter, en direct de Gaillac dans Europe Midi. Il est 12h50, restez bien avec nous. La fin d'une époque dans l'aéronautique. Le dernier A380 va être livré aujourd'hui à Emirates, le tout dernier exemplaire. On va en parler avec Emmanuel Litteil dans un instant. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53, le dernier A380, il va être livré aujourd'hui à Emirates, le tout dernier exemplaire produit. Après celui-ci, la production s'arrête. Emmanuel Duteil avec nous, l'A380, un avion mythique qui n'a jamais véritablement trouvé son public, Emmanuel. Hein.
En effet, on pourrait appeler ça le paradoxe A380. Cet avion fait rêver les fans d'avions, mais pas seulement. Mais les compagnies l'ont boudé. Seulement 251 commandes depuis le lancement du programme. Un programme qui est donc du coup très loin d'être rentable. On peut même parler de gouffre financier. Un des problèmes de l'A380, c'est sa taille. Ce qui était sa force est devenu son principal handicap. Il ne peut pas atterrir partout, il faut des installations spéciales. Et puis au moment de son lancement en 2008, on est en pleine crise économique, ça touche fortement l'aérien. Du coup, il y avait moins besoin d'avions gigantesques. Et ça se vérifie encore là en ce moment, avec la pandémie que nous traversons. Surtout, sa consommation par passager est un peu plus importante que les avions les plus efficaces. Et en ce moment, c'est évidemment un énorme problème. Emirates, malgré tout, y croit. C'est le plus important client du programme. Du coup, grâce à eux, des A380 devraient encore voler pendant environ 20 ans, selon Airbus.
Voilà, Airbus qui n'en produit plus, mais effectivement, Emmanuel, on peut encore en voir dans le ciel, bien sûr. Est-ce que vous en avez fini avec vos cadeaux de Noël ? Est-ce que, ça y est, tout est au pied du sapin ? Je vous pose la question parce que j'ai des idées de cadeaux, des 40 euros pour vous. Il y a des pépites musicales à se procurer. 4000 vinyles des années 50 aux années 90 qui traînaient dans les caves d'Europe 1 sont mis en vente aux enchères cet après-midi. C'est précis, c'est à 14h, hein, c'est dans une heure, sur le site drouot.com. Marie Jiquel avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Romain.
Vous nous dites qu'il y en a pour tous les goûts. Hein.
Ah oui, tout à fait. Une discothèque qui fait rêver, de la poésie avec Jean Cocteau, du jazz, de la musique russe, des musiques de films de Jean-Yann ou Belmondo. Hein. On écoute en ce moment L'As des As. Il y a même de la musique progressive allemande des années 70.
C'est pointu ça.
C'est très pointu. Mais si vous êtes plus classique Romain, on retrouve les incontournables de la chanson française. Johnny Hallyday, Étienne Daho, Alain Bachung et d'autres géants comme David Bowie, les Beatles ou Bob Marley. Patrick Debureau, le commissaire priseur de la vente.
En fait, tout était extraordinaire. Il y a des choses qui valent plus ou moins cher. Ce n'est pas tellement une question de prix. C'est vraiment des choses qu'on ne trouve plus en vinyle. Et surtout, encore une fois, qui ne viennent pas de n'importe où. Ça ne vient pas de n'importe quelle discothèque. Ça vient de celle d'Europe. C'est-à-dire que ça a été choisi, sélectionné à une époque. Et ça, ne serait-ce que cette sélection, ça fait déjà la richesse et l'intérêt des vinyles que nous proposons.
Vous l'avez compris, Romain, c'est l'occasion de dénicher des raretés comme cette photo de Gainsbourg dédicacée ou ce 33 tours des Rolling Stones signé par le groupe estimé entre 200 et 400 euros.
Là, ça peut monter. Hein. Ça peut monter. Signé, hein.
Signé par tous les membres du groupe.
Signé par tous les membres du groupe. Merci beaucoup Marie Jiquel. La vente démarre donc dans une heure sur drouot.com. Voilà, et pour rappel, la collection d'Europe 1 compte encore 70 000 vinyles. Merci beaucoup Marie.